historiquement vôtre.
Le récit.
Dans la famille des personnages morts de leurs inventions, voici l'Irlandais Thomas Andrews, celui que l'on considère comme le père de l'insubmersible Titanic. L'architecte à qui l'on doit ce paquebot mythique, le plus gros navire construit à l'époque, 269 mètres de long, 53 mètres de haut, un navire de luxe avec ses aménagements extraordinaires, salon de lecture, théâtre, piscine, cours de tennis, bain turc, mini-golf. Thomas Andrews est donc, au sein des chantiers navals Harland & Wolff de Belfast, l'architecte. Pas très reluisant comme titre quand on connaît le destin tragique du paquebot et de 1635 de ses 2200 passagers, victimes d'une malencontreuse rencontre avec un iceberg la nuit du 14 au 15 avril 1912 dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Ce Thomas Andrews, vous le connaissez peut-être sous les traits de son interprète dans le film Titanic de James Cameron, l'acteur canadien Victor Garber.
Mais là, aujourd'hui, faites attention Stéphane, parce qu'autant quand vous me parlez de Louis VI le Gros, j'y connais rien, mais là, Titanic, je l'ai vu 6 fois en salle à l'époque.
On vous avait...
Forcé, pas du tout. Non, j'essayais de pêcher une meuf, je suis allé 6 fois de suite, mais avec d'autres meufs différentes. Mon Dieu, je me trahis. J'espère qu'elle n'écoute pas. Enchaînez.
Dans le film... C'est un personnage très sympathique.
Ah oui.
À l'inverse des autres passagers de première classe, il ne traite pas le jeune et pauvre Jack Dawson, joué par Leonardo DiCaprio, comme un moins que rien. Durant le naufrage, il fait également preuve d'un grand altruisme en offrant à la belle Rose DeWitt Whittaker, sous les traits de Kate Winslet, son gilet de sauvetage. Quelle responsabilité ce directeur général des chantiers responsable des aménagements ainsi que de la sécurité du Titanic porte-t-il dans ce naufrage ? La manière bienveillante dont est dépeint le personnage de Thomas Andrews dans le film est sûrement un choix délibéré du réalisateur James Cameron. Car en effet, si l'on a longtemps pointé du doigt la qualité de construction du navire comme la cause de l'accident, il est désormais établi que le Titanic était l'un des navires les plus fiables qui n'ait jamais été construit à l'époque. Il pouvait d'ailleurs... car sa construction a coûté 1,5 million de livres, une fortune pour le début du XXe siècle. Thomas Andrews et ses équipes l'avaient conçu selon des plans révolutionnaires, coque à double fond, compartiment étanche, des caractéristiques qui le rendaient théoriquement, je dis bien théoriquement, insubmersible. Thomas Andrews avait de l'expérience en matière de grands paquebots. C'était certes encore un jeune architecte naval, 38 ans, en 1912, mais il avait, en plus de 20 ans, brillamment gravi tous les échelons de la hiérarchie les uns après les autres. Il avait notamment participé à la construction des Big Four, les quatre grands de la White Star, les Celtic, Cedric, Baltic, Adriatic. Mais le projet du Titanic était sans... J'essaie de mettre le même accent.
Ah ouais,
mais
vous êtes
le projet du Titanic était sans conteste le plus ambitieux sur lequel il avait travaillé.
Bah dans ce cas, à qui la faute ? Il y a quelqu'un qui est responsable.
Mathieu, la théorie que l'on retient aujourd'hui, celle qui ressort de la recherche historique et des enquêtes officielles menées par la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est que l'on doit le drame à un enchaînement de plusieurs événements. Des circonstances défavorables d'abord, comme la dérive exceptionnelle des icebergs cet hiver-là, et à une erreur de jugement aussi. 37 secondes avant l'impact, le premier officier du Titanic, le lieutenant Murdoch, ordonne de barrer à gauche pour éviter l'iceberg. Il ordonne également de faire machine arrière pour freiner la course du paquebot.
Erreur.
Cette manœuvre, semble-t-il, n'était pas la plus indiquée. On sait aujourd'hui qu'il aurait plutôt fallu accélérer pour aider les 46 000 tonnes du navire à tourner.
C'est bête comme chou, hein, qu'est-ce qu'il foutait ?
À ne pas tourner du tout.
Mais oui.
Et oui, une collusion de face n'aurait causé d'inondation que dans le compartiment avant. Or, la présence de 16 compartiments étanches dans la coque permettait au navire de rester à flot, même dans ce cas où 4 d'entre eux seraient inondés, vous voyez ? Toutefois, de l'avis général, la plus grosse responsabilité incombe au commandant du navire, Edward John Smith. Lui a carrément fait preuve de négligence coupable. De nombreux bateaux sur zone les avaient prévenus de la présence d'icebergs. Il n'en a pas tenu compte et il n'a pas ralenti la vitesse. Voilà donc les circonstances de l'accident. Mais qu'en est-il des moyens d'évacuation ? Thomas Andrews avait-il une responsabilité dans le nombre insuffisant de canots de sauvetage à bord ? Le Titanic n'en comptait que 20, suffisamment pour 1100 personnes, soit la moitié des passagers présents à bord. Thomas Andrews, est-il vraiment blanc comme neige ? J'ai une anecdote révélatrice à vous confier à ce sujet.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors, mon cher Stéphane, une fois de plus, vous êtes interrompu dans votre récit au moment où le suspense est à son comble, même si, sans spoiler les gens, je crois bien qu'on connaît la fin.
Sans divulgacher,
je crois que l'architecte Thomas Sandrews, dont on parle cet après-midi, a-t-il une part, oui ou non, de responsabilité dans le naufrage du Titanic ?
Après le choc de la tragédie, il y a eu une véritable campagne de dénonciation contre les dirigeants de la White Star Line et contre l'armateur du Titanic. C'est-à-dire contre le président des chantiers navals Harland & Wolff pour qui travaillait Thomas Andrews. Thomas Andrews n'accède au poste de directeur des chantiers qu'en 1910. La construction du Titanic avait alors déjà débuté. Son prédécesseur, un certain Alexander Carlyle, a démissionné de ses fonctions. Certaines sources racontent que la raison de ce départ aurait été le nombre insuffisant de canaux sur les deux navires alors en construction sur le chantier, l'Olympique et le Titanic. Si cela s'avérait vrai, le fait même que Thomas Andrews prenne sa suite le rendrait un peu responsable de la tragédie.
Complètement même.
À sa décharge, il faut préciser que le nombre de canaux sur le Titanic était suffisant selon la législation en vigueur en Grande-Bretagne.
La législation prévoyait de laisser mourir les troisièmes classes et de secourir les premières classes.
Non, mais il suffisait de 20 canaux, je vous l'ai dit, pour 100 personnes,
mais ce n'était pas suffisant.
Une législation qui sera modifiée juste après le drame, d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le pauvre Andrews a payé très cher sa souplesse sur la question des canaux. Sûrement se sentait-il coupable, car des témoignages racontent qu'il n'a même pas tenté de sauver sa peau pendant le naufrage. Un survivant du Titanic, un steward du nom de John Stewart, ça ne s'invente pas, a raconté l'avoir aperçu pour la dernière fois vers 2h10 du matin dans le fumoir. Il se tenait devant la cheminée à contempler un tableau. On peut tout à fait imaginer l'échange entre les deux hommes. En mélangeant faits avérés et un peu d'imagination, Mathieu, on le tente ?
Bon, si vous voulez, moi vous savez...
Vous faites l'architecte Thomas Andrews et moi je fais John Stewart. Monsieur Andrews, que faites-vous là ? Nous coulons ?
Merci John, j'avais remarqué. Le plancher est incliné d'au moins 10 degrés. J'ai su dès le départ que nous allions couler. Depuis que j'ai fait inspecter le bateau après la collision, il y avait trop de compartiments inondés. Avec 4 compartiments, nous aurions pu rester à flot, mais pas avec 6. Pas avec 6. Si seulement ce Murdoch n'avait pas viré de bord.
Que dites-vous ? Je n'entends rien avec ce foutu orchestre qui joue sans discontinuer depuis minuit. Allons, venez avec moi, nous pouvons encore tenter notre chance et rattraper un canot. La plupart sont à moitié pleins.
Non, merci, mon cher John. Je préfère rester ici à contempler ce tableau de Norman Wilkinson. Ne le trouvez-vous pas ironique dans notre situation ? Il se nomme l'approche du port de Plymouth et dire que nous devions accoster port de New York dans 2 jours.
Il était 2h10 du matin. Une dizaine de minutes plus tard, le Titanic disparaissait.